Le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est par la foi que nous nous encourageons à persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Ça a de l'air drôle de dire, mais ça prend de la foi pour décider qu'on s'encourage à marcher dans la foi. Parce que faut que t'aies l'assurance que c'est ce que tu dis, c'est vrai. Si tu y crois pas, t'oseras même pas en parler, tu voudras pas encourager personne. Si tu y crois, ça va être quelque chose de plus fort que toi. Tu veux en parler, tu veux que les autres qui ont la foi autour de toi persévèrent eux aussi dans la foi, puis tu vas les aider dans leur marche à grandir dans la foi. Première question, sommes-nous parfaits? En titre, oui, parce que Dieu, quand il pardonne, t'es pardonné. Mais en action de chaque jour, non. Avons-nous atteint la perfection, posée différemment? Non. On vise, on cherche, on travaille à notre sanctification, c'est notre but à atteindre. La perfection va être complète à l'enlèvement ou à la résurrection, quand on va avoir un corps glorifié. En attendant, on vise la perfection. Avons-nous atteint 100% du niveau de ressemblance à Jésus, notre maître? Parce qu'il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Le but, c'est qu'on arrive à cet accomplissement-là. Mais c'est clair que l'accomplissement va être à la fin que Dieu, quand il va nous enlever ce corps de chair-là, qu'il y a des tentations, qui est attiré par toutes sortes de choses, puis qu'il nous provoque des combats, parce que cette chair-là nous parle, elle a une volonté, elle a des pensées, elle nous parle dans notre esprit. Des fois, c'est des pensées qui viennent de notre chair, des fois, c'est des pensées qui viennent du diable, des fois, c'est des pensées qui viennent de Dieu. Puis là, on est en conflit, puis on a des décisions à prendre pour trancher, pour des choix qu'on fait pour s'en aller quand on avance dans notre vie. Mais on vise à devenir comme Jésus. Si quelqu'un n'a pas cette vision-là de devenir comme Jésus, viendrait me voir après la réunion, on va en parler. Il n'existe personne sur cette terre qui, lorsqu'elle est venue au Seigneur, avait déjà tout ce que le Seigneur voulait l'emmener. En commençant, là, quand tu acceptes le Seigneur, il n'y a personne qui, en commençant sa vie chrétienne, avait déjà tout ce que le Seigneur voulait l'emmener. Tu ne le reçois pas tout au commencement quand tu commences ta vie chrétienne. Il y a même encore une autre idée là-dessus. Il n'y a personne qui, après 30 années de service pour le Seigneur, qui ait déjà tout atteint où ce que Dieu voulait l'emmener. Que ce soit au début de ta conversion ou 30 ans plus tard, tu n'es pas rendu au maximum de où ce que Dieu voulait t'emmener. Ça veut dire qu'on a encore de l'ouvrage. Il y a encore du chemin à faire. On a encore des choses à apprendre. Puis il y a encore des choses qui doivent changer dans nos vies. Puis il y a des choses même qu'on s'était débarrassées, qui sont revenues, puis là, il faut que tu t'en redébarrasses une deuxième fois, troisième fois. Tu vas toujours être en combat. Mais il y a un point en commun quand même dans tous ces points-là de personnes. C'est que les gens marchent par la foi. T'es pas parfait, tu marches par la foi. T'as pas atteint le niveau ce que Dieu veut nous emmener, mais tu marches par la foi. Tout le monde a à marcher par la foi. Ça, c'est à notre moyen d'utiliser. C'est à notre niveau. C'est marcher par la foi que Dieu nous a donné, travailler sur notre foi. Le reste, on va avoir des victoires, on va avoir des défaites. Il y a des guerres, il y a des combats, on en gagne quelques-unes, on en perd quelques-unes, mais on demeure dans la foi à partir du moment qu'on a accepté jusqu'au moment de notre départ de cette vie, de notre mort. On ne lâchera pas la foi avant d'être rendu. On a besoin, parce que c'est la chose la plus importante aux yeux de Dieu, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire qu'en partant, que tu sois arrivé au niveau 10% de où ce que le Seigneur veut t'amener, ou 90% où ce que le Seigneur veut t'emmener, il faut que tu marches dans la foi. Tu rentres pas au ciel parce que tu es rendu parfait. Tu vas rentrer au ciel à cause de ta foi. Il y a une différence. C'est la foi qui sauve. On l'a vu dans les autres leçons. C'est par la foi qu'on saisit le salut. C'est par la foi qu'on saisit ses promesses. C'est par la foi, tout le kit. Tout le kit, tout ce que vous allez pouvoir vivre dans votre vie, c'est par votre foi et non par où ce que vous êtes rendu. Parce que si tu pêches rendu à un certain moment donné, même après 30 ans de vie chrétienne, c'est encore le même procédé pour se débarrasser de la conséquence comme au commencement. C'est confesse-le au Seigneur, puis il est fidèle et juste pour te pardonner. Donc, le problème, c'est pas le péché, le problème. Le problème, c'est la foi pour faire ce que Dieu dit de faire quand tu as péché. Tu y crois, faut que tu le confesses. Puis tu le fais, c'est aussi simple que ça. Tu demeures dans un état à confesser toute ta vie que tu en fais encore, puis tu t'accroches à sa grâce. C'est par la foi qu'on va rentrer. Si on se dit faut être parfait pour rentrer, il n'y en a pas un qui va rentrer. Parce qu'il n'y en a pas un qui est rendu parfait à la fin de sa vie chrétienne. On le vise, mais on en fait encore tous. Paul lui-même, Paul qui était l'apôtre Paul, il dit nous, non Jacques, il dit nous bronchons tous de plusieurs manières. Jean le dit aussi que si quelqu'un dit qu'il est sans péché, il est menteur. Puis Jésus, non Paul lui a dit, misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort? Je fais des choses que je veux pas, puis je fais pas ce que je voudrais faire. C'est un conflit continuel tant que tu vas être vivant. Mais marche par la foi. C'est ça qui est important. Dieu a voulu que ses enfants marchent par la foi, dans la persévérance, dans l'attente des choses venues du Seigneur. Toute notre croissance spirituelle, c'est juste le Seigneur qui peut débloquer les choses. Puis Dieu a voulu qu'on marche par la foi, qu'on sache que tout vient de Dieu, puis on décide de mettre notre confiance en Dieu. On décide de persévérer dans l'attente de recevoir de Dieu ses autres bénédictions. Parce que être sauvé, c'est une chose, mais il y a plein d'autres promesses qu'on veut aussi. Je vais être exaucé, moi je vais avoir un travail convenable, je vais avoir l'argent qui est nécessaire pour survivre, je vais avoir la santé, il y a plein d'affaires de base qu'on demande, on veut être utilisé dans l'œuvre de Dieu. On prie pour toutes sortes d'affaires, puis Dieu lui ouvre des portes, puis il va le faire, mais ça dépend toujours de la grâce de Dieu. Fait qu'il faut apprendre à marcher par la foi, puis à s'attendre de Dieu pour notre avancement. Nous devons continuellement prendre des décisions et poser des gestes en vue des choses à venir, en vue de ce que Dieu peut faire dans ta vie, en vue de ce que tu sais ce que Dieu va faire. Tu le sais, si tu marches par la foi, mais tu vas faire poser des gestes pour arriver à ce que tu t'en vas. Dans Hébreux 11:20, il y a un exemple dans un verset. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Donc, Isaac, il a eu une vision du Seigneur, il savait c'était à quoi le plan de Dieu pour ses enfants, puis là, il a béni ses enfants en conséquence du chemin où il s'en allait. Il savait ce que ses enfants, ils s'en iraient comme ça dans leur vie, puis il les a bénis dans le sens de la pensée de Dieu. À cause de sa foi, mais il a béni d'avance pour la suite de l'histoire de la vie de ses enfants. Ça nous apprend des choses sur la foi. Tu t'en vas par là à cause du Seigneur, mais tu vas prendre des décisions, tu vas prier, tu vas bénir, tu vas déclarer des choses dans la direction où ce que tu t'en vas parce que tu sais qu'on s'en va par là. Si tu as des choses qui te sont révélées dans la parole, puis tu sais qu'on s'en va par là, ben commence déjà à te préparer puis à prier pour cela. Jésus nous a pas dit aussi dans la même idée. Il nous a dit que dans la fin des temps, ça va être difficile. Mais il nous a dit, veillez et priez afin d'avoir la force de tout surmonter. Donc, si tu y vas par la foi dans ta marche de tous les jours, il te dit d'avance que ça va être dur, puis il dit de prier d'avance avant que ça arrive pour avoir la force. Donc, ta foi va t'amener à prendre des décisions qui vont, puis à faire des choses comme prier pour avoir ce qu'il te faut pour traverser l'épreuve lorsqu'elle viendra. La foi va nous amener à, aujourd'hui, je suis conscient que demain, ou après-demain, ou après-après-demain, ça va être difficile, je peux commencer déjà à prier. On peut prier pour nos enfants. Par la foi, on veut que nos enfants soient sauvés. On le sait que ça se passe en prière. Tu peux aujourd'hui prier pour tes enfants pour demain. Mais si tu sais que tu vas perdre ta job, tu n'es pas obligé d'attendre la journée que tu as perdu ta job pour avoir un autre job. Tu peux commencer à prier tout de suite. C'est une idée qu'on se dit. À cause qu'on, si on est au courant de où est-ce qu'on s'en va, surtout dans les choses que Dieu a déjà révélées, mais tu pries. Puis tu prends des décisions en fonction d'arriver par là. Dieu veut nous amener là, puis nous aussi, il faut travailler de façon à ce qu'on s'en aille à la même place, pas se fuir en courant. Jonas, il fallait qu'il aille par là. Lui, il a décidé d'aller par là un bout, mais après ça, quand il a compris que c'était pas le bon chemin, il est revenu, puis il dit, correct, je vais y aller. Voyez-vous l'idée? Marcher par la foi, tu y vas tout de suite, là. Quand tu sais que c'est là, faut que tu t'en ailles. Nous ne voyons pas ce que Dieu veut faire, mais nous le savons ce qu'il fera, parce qu'il nous l'a promis. Il y a plein de promesses dans la parole de Dieu pour ceux qui marchent par la foi. Dans Romains 8, 25, il dit, mais si nous espérons ce que nous voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Si tu n'as pas encore reçu ce que tu attends, tu le vois pas que tu l'as reçu, mais tu continues à l'attendre avec persévérance. C'est ça, la foi. Tu relâches pas pis dis, oh, je fais trois fois, je le demande, j'arrête ça là. Non. Quelqu'un qui veut vraiment quelque chose puis il y a une promesse pour cette chose-là, tu lâcheras pas. Tu l'as pas encore vu, ton affaire. Tu vas l'attendre avec persévérance. Tu lâcheras pas. Les gens de foi, mais ils lâchent pas. Ils persévèrent. C'est ça qui est l'idée. On persévère dans notre attente. On attend que Dieu le fasse, puis on persévère. On lâche pas, puis dit, oh, c'est correct, Seigneur, je pense, donne-moi plus ça, moi, je veux plus ça, je veux d'autres choses. Là, si tu commences à demander, tu lâches de demander, tu demandes d'autres choses. Là, si tu sais pas où tu t'en vas, t'es un roseau agité par les vents. Dieu n'a pas besoin de roseaux, il a besoin des arbres solides, inébranlables. Puis qui puise dans la parole, puis donne le feuillage. Puis on sait qu'on a telle chose, on s'enligne là-dedans, puis on lâche pas de morceau. Ce qui garde un chrétien dans sa vision de vouloir être sauvé, par exemple, c'est la puissance de Dieu qui agit dans nos vies. Parce que Dieu, il stimule notre foi de toutes les façons pour qu'on persévère dans la foi. Quand Dieu permet qu'on ait une guérison, quand on prie puis que quelqu'un est guéri, ou quelqu'un est exaucé pour une affaire, puis des fois c'est des affaires que c'est impossible, ça arrive quand même. Quand Dieu donne des réponses, pourquoi vous pensez qu'il fait ça? Il fait ça dans le but de fortifier notre foi aussi, pas juste pour, oui, ça, on est content de l'avoir eu, mais il veut qu'on fortifie notre foi. Sa puissance a été agissante. Ça devrait nous booster puis dire, la prochaine fois, on va le demander encore. Amen. Dieu veut fortifier notre foi, puis il sert de toutes les petites affaires. Il y en a qui en voient plus, ils ont des églises qui ont des dons spécifiques, puis il y en a un peu plus, mais c'est pas grave, découragez-vous pas, continuez à le demander, puis vous allez en voir plus. Dieu répond à la foi. Dieu exauce les prières. Quiconque demande reçoit donc. Celui, on pourrait dire, celui qui demande peu reçoit peu. Celui qui demande beaucoup va recevoir beaucoup. Ça a-tu du bon sens? Puis si tu demandes beaucoup, c'est peut-être parce que tu as la foi. Si tu as la foi, tu vas demander beaucoup, puis tu vas recevoir beaucoup. Tout va ensemble. Ne nous lâchons pas. Dans le verset de 1 Pierre 1,5, ça nous dit, « Par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi. » Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Le salut n'est pas encore révélé, on s'en va vers cela. Mais qu'est-ce qui nous garde aujourd'hui dans la foi? C'est la puissance de Dieu qui nous garde dans la foi. Dieu fait toutes sortes de choses pour stimuler votre foi. Il faut être à l'écoute Dieu veut nous parler, parce qu'il n'y a pas juste un miracle qui fait qu'on voit Dieu. On l'entend aussi. Dieu nous parle. Il nous dit des affaires par des prédications, par ce qu'on entend. C'est parce que des fois, on dit, « Hey, il vient de me dire quelque chose, là. Ça, c'est quelque chose que j'ai pensé, mais vu que c'est lui qui me l'a dit, ça doit être lui. » Non, mais si ça a rapport à ce que tu étais en train de déjà penser, ça confirme ce que tu as déjà... Dieu t'a parlé, même par un frère. La cause, tu dis, « Ouais, c'est lui qui me dit ça, tu t'en fais pas de cas. » Mais en réalité, Dieu t'a quand même parlé. Il va tout nous montrer ça à la fin. Combien de fois qu'il nous a parlé, puis qu'on a comme... On s'est quasiment fermé les yeux pour pas voir pendant des bouts, parce qu'on voulait pas entendre Dieu vouloir nous dire quoi changer. Mais Dieu fait des choses dans le but de stimuler notre foi, parce qu'il sait que c'est notre foi qui va nous garder dans le chemin. Si quelqu'un relâche dans sa foi, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se produire? Il va se perdre. Il va douter de tout. Il croira plus à ce qui est écrit. Puis il se donnera plus vraiment une raison de persévérer. Il va dire, bof, moi je tenais de me priver. Il va dire, pourquoi je me priverais? On s'en va dans le cimetière et tout de suite après, puis c'est fini là. Bon, ben là, je vais profiter de tout ce qui est devant moi. Non, c'est pas demain que ça marche. C'est le contraire. Celui qui a la foi, il va se dire, moi, je le sais qu'il y a un jugement, puis je dois avoir la crainte de Dieu. Je le sais qu'il y a une vie éternelle, puis je veux y rentrer. Je le sais que Dieu a des attentes sur ma vie, puis il y a des choses qu'il aime, il y a des affaires qu'il aime pas, puis il veut que j'y montre comment je l'aime en obéissant à sa parole. J'y crois en Jésus, je le sais qu'il est venu v'là 2000 ans, puis je vais mettre ma foi dans ce qu'il dit. Je vais mettre en pratique ce qu'il me demande, parce que de même, je le sais qu'il va être fier de moi. Là, tu marches avec confiance dans ce temps-là. Tu marches avec assurance, tu marches avec force parce que tu es convaincu. Si tu ne l'es pas convaincu, tu doutes. Là, tes doutes, mais ils t'amènent à même plus croire ce que tu entends. Tu ne voudrais même plus être à l'église. Tu vas dire, chaque fois que je l'entends prêcher, ça ne me dit plus rien. Pour moi, je ne crois plus à cela. Si ça ne dit plus rien, il ne viendra plus, puis il va marcher comme qui marchait avant de venir au Seigneur. On retourne dans le monde. Mais si on ne veut pas retourner là, il est important qu'on garde la foi. Et pour garder la foi, c'est Dieu qui fait toutes sortes d'affaires pour qu'on puisse se maintenir dans la foi. Puis qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il en fasse de plus en plus des affaires pour me montrer qu'il est là, pour que ma foi soit toujours nourrie. Je vais y aller à l'église, je sors de là, boosté dans ma foi, ça fait du bien. Mais si Dieu a permis qu'il y ait une église dans ce but-là, qu'on peut se booster, c'est comme un gros chargeur de batterie, une église. Ça nous charge notre vie spirituelle, tu sors de l'église, boosté dans le Seigneur. Tu es prêt à évangéliser la planète? Parce qu'on est connecté sur le gros jus, sur l'électricité full. L'électricité du Seigneur. C'est ça qui était le plan de Dieu. Puis ça, il ne faut pas abandonner nos assemblées. C'est dans le plan de Dieu qu'on vive des choses ensemble. Vous allez le voir tantôt. Nous sommes aussi dans la persévérance par la foi en notre engagement opéré par Dieu pour nous amener à la ressemblance de Jésus. Ce que je veux en venir, c'est qu'on persévère par la foi. Puis on croit qu'il y a un changement qui va être opéré par Dieu. Parce que c'est Dieu qui va faire l'œuvre en moi pour que je devienne comme Jésus. Tantôt, j'ai dit, est-ce qu'on l'a atteint? Personne ne levait la main, on ne l'a pas atteint. Mais on le sait que c'est le travail de Dieu de nous amener à ressembler à Jésus. Fait que moi, si j'ai la foi, je vais m'attendre à ce que Dieu m'amène à être comme Jésus. Là, il va me montrer des affaires, je vais lui demander pardon, puis il va faire l'œuvre de délivrance, puis plus ça va aller, plus je vais être transformé. Marcher par la foi, c'est de marcher dans l'attente à ce que Dieu vienne changer ta vie. On a-tu cette pensée-là? Oui, on a cette pensée-là. Ça nous dit dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous, le visage découvert, on contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à ressembler de plus en plus à Jésus. C'est le but. Nous tous, on contemple comme des miroirs. On lit la Bible, on écoute les enseignements de la Bible. C'est comme un miroir, on apprend à voir comment Jésus était. Jésus marchait par la foi, il n'y avait pas de plus grand exemple que lui. Il a persévéré malgré l'opposition, malgré ses souffrances, malgré tout ce qu'il a traversé. Puis il démontrait sa foi, puis il parlait que des choses du Seigneur. Il démontrait sa foi. Tu peux pas dire que Jésus marchait pas par la foi. Si quelqu'un pense là, il sait pas c'est quoi la foi. C'est l'exemple parfait de la marche par la foi. Puis il veut qu'on y ressemble. Fait qu'on regarde Jésus aller, puis là, plus qu'on le lit, plus qu'on veut devenir comme lui. Mais c'est le Seigneur qui va nous changer pour nous amener. Donc, si je marche par la foi, je vais m'attendre à ce que Dieu vienne continuer son œuvre de changement dans ma vie pour que je ressemble de plus en plus. Seigneur, change-moi. J'ai plein d'affaires à changer encore. Merci, Seigneur. Paul, il avait la même idée. Il prenait des décisions, puis à cause de sa foi, il l'avait confessé dans d'autres versets qu'il n'était pas parfait, lui non plus. Mais, même s'il n'est pas parfait, c'est pas une excuse. Parce que tu peux te dire, je suis pas parfait, je le deviendrai jamais, donc, ça donne quoi? Non, c'est pas de même que ça marche. La foi va dire, je suis peut-être pas parfait, mais par la foi, je sais que Dieu va changer encore plein d'affaires dans ma vie. Ça, c'est parler par la foi. Si tu parles par la foi, tu vas dire, je vais travailler avec Dieu, je vais prendre les armes de Dieu, je vais m'équiper, je vais me fortifier dans le Seigneur avec tout ce que le Seigneur va me communiquer, je vais prier, je vais rester connecté avec Dieu et avec l'Église, puis ensemble on va avancer. Ça, c'est parler par la foi. Paul lui dit, il confesse dans Philippiens 3:12, il confesse encore son impuissance, mais il confesse ses décisions par la foi pour changer. Il ne sait pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Lui, il dit, c'est pas parce que je l'ai déjà, la perfection. Il n'a pas encore atteint la perfection. Il le dit dans d'autres versets aussi. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Je ne l'ai pas atteint, mais il court. Quelqu'un qui marche par la foi, il court pour saisir les promesses de Dieu, pour saisir la perfection. Tu veux être changé. Tu veux être transformé. Tu veux être guéri. Tu veux être délivré. Tu veux être rempli de toute la connaissance de Dieu. Tu veux être rempli du Saint-Esprit. Tu veux tous les dons spirituels. Tu veux un ministère. Tu veux que Dieu t'utilise. Si tu veux que Dieu t'utilise puis que tu veux qu'il change ta vie, tu marches par la foi puis tu t'accroches à tout ce qu'il t'offre. Paul, il dit, je l'ai pas encore atteint, j'ai pas tout saisi, mais je cours pour le saisir. Il dit, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je pense pas l'avoir saisi. Il écrit sa lettre, était quasiment à la fin de sa vie. Mais il courait pour le saisir, mais il dit, pense pas qu'il l'avait saisi. Mais, je fais une chose. Ça, écoutant encore son beau « mais ». Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Quand tu avances par la foi, tu te laisses pas arrêter par tous tes petits blocages que tu as vécu, des petits ou des gros. Peu importe le blocage qui a essayé de t'arrêter, tu marches par la foi, t'arrêtes de penser qu'est-ce que tu as vécu dans ton passé. Tu dis, t'oublies ce qui est en arrière, mais là, tu te portes vers ce qui est à venir, ce qui est en avant, ce que le Seigneur va faire, puis il a promis qu'il va en faire. Il a commencé un œuvre en toi, puis il va la rendre parfaite. Et tu vas les avoir, tes changements dans ta vie, tes transformations, tes délivrances, tes guérisons, puis il va t'utiliser. Mais avance, oublie le passé, tu as fait des erreurs, Dieu ici, inquiète-toi pas, toutes tes erreurs, il les a toutes vues. Demande pardon à Dieu, puis c'est fait, c'est réglé, puis pardonne-toi aussi. Oublie ça, là. Reste pas accroché là-dessus, puis enraciné là-dedans. Oublie ça, avance par en avant. Et il dit, frère, je pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il court, C'est un gars qui n'a pas de l'air à cela, mais c'est un gars essoufflé parce qu'il court tout le temps. C'est un gars plein de zèle à vouloir l'attendre. On est-tu des gens essoufflés ou si on est des gens qui s'est ralenti? Parce que si on est ralenti, on entend ce qui est là, on se remet à dire là, genre, je vais avancer par la foi. Je vais oublier ce qui est en arrière, puis là, je vais me porter vers ce qui est en avant. J'ai encore beaucoup d'années à vivre, puis Dieu a encore de grandes choses à faire. Puis il va le faire parce qu'il l'a promis. J'ai un amen là-dessus. Gloire à Dieu. Par la foi, nous ne perdons pas courage lors des épreuves. Parce que notre foi, à cause de notre foi, parce que par notre foi, nous regardons aux choses invisibles. Tu as des épreuves, tu as des choses terribles à traverser présentement. Oui. Puis Dieu le voit aussi. Puis des frères et sœurs qui te connaissent le savent aussi. Puis ils prient pour toi. Mais on perd pas courage dans l'épreuve. Faut pas perdre courage. Faut pas arrêter. Parce qu'on regarde aux choses invisibles. Dieu, il est là. Dieu, il sait. Dieu, il entend mes prières. Il voit mes pleurs, mes larmes. Il voit mes souffrances. Il voit mes peines. Il voit mes efforts. Il voit tout ce qu'on traverse. Puis il nous a pas abandonnés, puis il n'a pas l'intention de nous abandonner. Il dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là, à côté de nous, dans notre épreuve. T'es assis dans ton bureau d'ordi, il est là. T'es en train de faire la vaisselle, il est là. Tu conduis ton auto, il est là. Il est toujours là. Si t'arrives un accident pendant que t'es en auto, il est là dans ton accident. Il voit ce que tu traverses. Il sait, puis il veut t'accompagner dans ce que tu vas avoir à passer à travers, mais il veut pas que tu te décourages dans ce moment-là. Ton épreuve, elle a un but, c'est pour te former. Puis il y a un témoignage à donner. Dieu, il a un plan. Faut faire confiance au Seigneur, mais il est là, puis il t'abandonne pas, puis il veut que tu persévères. Dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18, ça nous dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Et lors même que notre âme extérieure se détruit, le vieillissement, on sait de quoi est-ce qu'on parle, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Un chrétien qui marche par la foi, peu importe l'épreuve, peu importe le combat qu'il a à vivre, il regarde dans l'invisible. Il regarde, Dieu y est là, Dieu m'accompagne, Dieu m'a donné des promesses. Puis je sais qu'il voit toutes mes souffrances. Puis je sais qu'il y a même des récompenses pour les légères afflictions qui produisent un poids éternel de gloire. Je sais que je m'en vais l'autre bord. Puis ça, par la foi, je lâcherai pas. Puis même si l'ennemi essaiera de me faire vivre ça dans le but de me décourager puis renier Dieu, comme qu'il a fait avec Job, nous, ça nous fortifie. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que son nom soit béni éternellement. Je l'ai déjà dit, cette phrase-là, dans un moment difficile dans ma vie. Marcher par la foi, c'est ne pas abandonner, persévérer et accomplir ce que Dieu s'attend. Ça, là, ça l'égale obtenir ses promesses. Si tu t'abandonnes pas, tu persévères, puis tu fais ce que tu as à faire, tu vas obtenir les promesses de Dieu. On voit ça dans Hébreux 10, 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance. Ça ne parle pas de l'assurance combine ou pro-mutuelle. L'assurance, c'est la confiance en Dieu. N'abandonnez pas votre confiance en Dieu. Il ne vous décevra pas. Attendez-vous à Dieu. Puis gardez l'assurance. Dieu va agir. Ayez confiance, il agira. Il y a plein de versets dans l'Ancien, puis dans le Nouveau même. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Il y a un grand salaire pour ceux qui ont cette assurance-là. L'assurance, là, la foi que Dieu est là, tu es avec Dieu, puis Jésus est là, puis tu marches avec le Seigneur dans ta vie. Mais il y a des récompenses pour ceux qui persévéreront. C'est les promesses de Dieu, ça. C'est une promesse de Dieu. Qu'est-ce que je vous lis là? Il dit, vous avez besoin de persévérance. Dans le même verset. Fait qu'il faut pas que tu abandonnes, puis il dit, vous avez besoin de persévérance. Afin, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui était promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il tardera pas, puis mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Voyez-vous le point? Il dit, n'abandonnez pas votre assurance, puis il dit, j'ai besoin de persévérance pour accomplir. Faire la vie chrétienne, vivre la vie chrétienne, ça prend de la persévérance. De la persévérance en quoi? De la persévérance dans la foi en Dieu, en Jésus, en sa parole. Si tu persévères, les choses qui t'arrivent, c'est dans le but de te presser, puis de t'éprouver, puis le diable essaye de te faire abandonner. On n'abandonnera pas, on va persévérer, on va continuer, puis on va obtenir ses promesses. Amen. Parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Pour ceux qui persévèrent, je vais vous lire un passage dans l'Apocalypse. Il y a Dieu, dans tout ce qu'il nous explique dans sa parole, il y a des promesses, il y a des bonnes paroles venant de Dieu, puis il y a d'autres paroles qui sont comme des paroles qui sont un peu sévères. Mais Dieu est obligé de sévir dans certains cas, comme qu'il a fait dans la lettre dans l'Apocalypse au chapitre 2, le verset 14 et 15. Ce qu'on doit savoir dans tout cela, on va lire les deux premiers versets. Non, à partir du verset 13, pardon. C'est le verset qu'on va commencer par lire. Dieu veut que tu saches qu'il te le dit. Il le dit à ces gens-là, puis il nous le dit à nous aujourd'hui. Il sait parfaitement ce que nous vivons. Il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu es en train de passer à travers. Puis il voit ta foi. Quand on réagit, quand on agit, on est-tu dans la foi, d'une petite foi, d'une grosse foi? Dieu voit parfaitement toute chose. Dans l'Apocalypse 2, le verset 13, il dit, « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. » Cette ville-là est comme le siège social du diable sur la planète. Tu retiens mon nom, puis t'as pas renié ta foi. Dieu connaît les gens qui habitaient cette ville. Pis ces gens-là, malgré qu'ils vivaient dans un siège social du diable, dans cette ville-là, ils ont retenu le nom de Dieu, puis ils ont gardé la foi. Ils ont passé à travers leur épreuve, ils ont persévéré. Dieu est témoin de tout ce qu'ils ont vécu par la foi. Il dit, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Dieu a vu la persécution qu'il y a eu contre cette église-là, puis qu'Antipas, qui est un témoin fidèle, est décédé suite à cette persécution. Dieu a tout vu. Dieu est témoin que les gens n'ont pas renié son nom, puis qu'ils ont gardé la foi. C'était du monde qui n'est pas question d'aller ailleurs dans le sens que s'accrocher à Dieu. Même s'il y a eu une persécution pour les empêcher d'être chrétiens, ils ont résisté, ils n'ont pas succombé à la tentation d'abandonner. Ils ont persévéré dans la foi. Puis Dieu, s'il nous dit ça, première chose qu'il veut qu'on comprenne, c'est qu'il connaît ce qu'on vit. Il sait entièrement ce qu'on traverse. Puis il voit, puis il voit aussi notre foi dans notre épreuve, dans nos combats. On peut rien y cacher. Mais, dans ces passages-là, les gens de cette ville-là, les chrétiens, avait un péché grave. Puis Dieu le mentionne, puis il trouve pas ça drôle, ce péché-là. Même si les gens étaient dans la foi, il y avait quelque chose de grave qu'il fallait que Dieu mette son doigt là-dessus pour leur dire que là, vous devez vous repentir puis lâcher ça, sinon vous rentrez pas. C'est ça qu'il lui dit. Alors regardez au chapitre 2, verset 14 et 15 dans Apocalypse. Mais, il a vu le foi, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles puis qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Puis là, il dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ce que je veux en venir en passant, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut en venir, parce que je voulais même pas en parler de cela, mais c'est Dieu qui m'a montré ce passage-là, puis il voulait que je le mette là. Il veut que je parle de ce verset-là. Il dit, il voit notre foi, il voit nos épreuves, il voit nos combats, mais il voit notre foi, puis il voit comment est-ce qu'on résiste. Puis ça, il n'y a rien à dire à ça. Ils sont louangés au niveau de leur foi. Là, on parle au niveau de comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne, puis que là, le relâchement est que les gens de cette église-là, ils allaient dans les tentes d'idoles. Puis ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles. Puis il y a du monde dans leur église qui disait, « C'est pas grave si tu vas là. » Il dit, « Toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » Puis cette doctrine-là des Nicolaïtes, c'est la doctrine de Balaam, de manger des viandes sacrifiées aux idoles, puis de se livrer à l'impudicité. Parce que quand ils étaient devant des idoles, ces gens-là, ça faisait le party sexuel en plus. Mais dans l'Église, les gens avaient la foi en Dieu, ils persévéraient dans les souffrances, mais quand c'était le temps de sanctifier, il n'y avait pas la crainte de Dieu ce côté-là, ils s'en allaient dans les temples de faux dieux, puis ils faisaient des orgies de prostitution avec les prostituées qu'il y a là. Dieu, là, les cheveux, il redressait sa tête. Il dit, je le vois, là, ta souffrance, je vois tes combats, je vois que tu n'as pas renié mon nom, mais ce que j'ai contre toi, c'est qu'il y a du monde dans ton église qui est en train de fréquenter des temples d'idoles, des statues, des photos, puis ils prient ça, là, puis ils se prostituent, ils font la même chose que Balaam. Puis là, Dieu lui dit, il dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi, puis je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Il parle pas de les bénir, malgré qu'ils ont la foi. C'est lâche ça, parce qu'il attend pas que le Seigneur il soit tanné, puis c'est parce qu'il est plus capable. Ça, là, je parle pas juste pour l'Église ici, je parle pour ceux qui m'écoutent sur Internet. Il y en a des milliers qui viennent écouter les enseignements. Il y a présentement une séduction dans le monde évangélique. Puis les gens, les églises entières deviennent écuméniques, fraternisent avec les tentes d'idoles, catholiques et autres, puis ils pensent que c'est leur frère, puis là, ils veulent faire des alliances, puis marcher ensemble, puis ils sont dans le temple d'idoles, puis ils participent en plus à leur réunion. C'est une offense à Dieu. Si un chrétien fait une prière à Marie, il est en train de prier un autre Dieu. C'est pas dans la Bible, ça, là. C'est satanique au bout. Prier les morts, c'est une abomination. Les gens dans l'Ancien Testament étaient lapidés pour avoir fait des choses semblables. Puis il y a du monde qu'aujourd'hui, puis pas des monsieur tout le monde, le chrétien, des jeunes dans le Seigneur, là, on parle des pasteurs, des unions d'église qui sont en train de s'associer puis donner révérence au pape. C'est rendu une séduction, là, sont tombés dans un aveuglement terrible. Peut-être je vais me faire lancer des tomates, là, parce que je parle de ces affaires-là. Le Seigneur, il annonce là pour dire qu'il y a de quoi qui s'en vient, parce que le jugement commence dans l'Église. Puis, il faut que les gens mettent en pratique ces choses-là. Dieu ne rit pas de cela, l'idolâtrie. C'est une abomination. Il ne donnera pas sa gloire à un autre. C'est un des 10 commandements, deux des 10 commandements, les 2 premiers. Un, tu n'auras pas d'autre Dieu. Puis le deuxième, tu ne feras pas de statue ni d'image, puis tu ne serviras pas cela. Mais ce qui est en train de se faire dans cette église-là, c'est qu'il le faisait. Puis Dieu dit, repentez-vous, sinon je vais venir, puis je vais vous combattre avec l'épée de ma bouche. Ce qu'il faut comprendre quand on marche par la foi, il y a des fois que tu n'as pas le choix, faut que tu prennes des décisions rapides, puis tu abandonnes certaines choses qui sont vraiment déclarées déjà. C'est clair, c'est noir sur blanc dans la Bible que c'est un péché. Faut que tu lâches ça. Ah, c'est un des 10 commandements. Dieu, il n'a pas l'intention de rire quand il dit « aucun idolâtre va rentrer dans le royaume de Dieu. Aucun menteur, aucun impudique, aucun idolâtre, aucun menteur va rentrer. » Les gens, nous, surtout ceux qui marchent par la foi, on marche par la foi, je dois persévérer dans la foi, mais je dois aussi accomplir ce que Dieu s'attend de moi. Je dois faire, dans le sens, faut que j'arrête de faire peut-être des choses que Dieu aime pas, comme être idolâtre, voyez-vous. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, dans sa patience, il nous donne aussi encore des promesses, puis il parle qu'il y en a qui vont avoir la victoire, qui vont être victorieux sur les péchés. Il leur offre de se repentir, mais il lui dit tout de suite après une promesse dans Apocalypse 2:17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Là, il parle à ceux qui... Tu réalises, tu te repens. Tu vas marcher dans la victoire. C'est ça qui est marcher dans la foi. Tu vas croire ce que Dieu te dit, puis tu vas prendre des décisions pour ajuster, pour tasser le péché. Si Dieu te montre des péchés, des choses dans ta vie, s'il te les montre, résiste pas. Tu veux grandir, tu veux des victoires, tu veux marcher dans la foi. Fais ce que Dieu te dit. Fais ce que Dieu te demande. C'est déjà clair dans la parole. Ferme pas ta Bible parce que tu dis, je veux plus voir ce qu'il y a d'écrit. Reste les passages ouverts, puis relis-les 2 fois, puis 3 fois. Laisse Dieu te parler, puis accepte de te faire que Dieu te montre des choses que tu dois changer. Ses commandements sont là, sa parole est là, puis c'est comme un guide. Notre foi doit être encadrée dans le guide qui sont les bornes de traverse pas en dehors de cette zone-là, si tu veux démontrer que tu as la foi qui sauve, voyez-vous? Gardons les yeux sur Jésus qui a vaincu, puis il est entré dans les cieux. Jésus, il a commis aucun péché, puis il a ouvert la porte pour qu'on puisse rentrer. Il est allé porter son sang dans les lieux célestes. Puis ça nous dit dans Hébreux 4:14, ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurer ferme, c'est de la persévérance. Lâchons pas. Persévérons. Laissons-nous pas attirer, parce que ça, c'est le diable qui essaie de nous voler. Laissons-nous pas détourner. Soyons plus stricts que toutes les autres que nous voyons. C'est écrit ça, moi je suis ça. Montrez l'exemple de foi. Une fois, vous croyez en la parole, mettez-la en pratique. Montrez l'exemple, même s'il n'y a personne dans l'Église qui mettra en pratique une affaire. Bien, tu vois qu'il faut le mettre en pratique, mais en pratique, ça va donner l'exemple aux autres. Nous ne sommes pas les seuls dans cette persévérance par la foi. Je suis pas tout seul là-dedans. Vous êtes toutes là, vous aussi, à persévérer dans la foi. Paul nous explique que nous pouvons nous encourager par nos expériences de notre foi. Tous ensemble, on avait à se regarder, à s'encourager, à s'expliquer ce qu'on comprend, puis on se booste les uns les autres à demeurer dans la foi qui nous mène à obtenir les promesses de Dieu. Romains 1:12, il dit, « Afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune. Il y a un encouragement à aller chercher en équipe. Par la foi a grandi quand on est en équipe. On marche ensemble, puis Dieu veut qu'on s'encourage ensemble dans notre foi. Dans l'autre verset, 1 Corinthiens 16, 13, il dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Voyez-vous? Il ne demande pas aux femmes de se transformer en hommes. C'est dans le sens que l'homme inclut le sexe féminin puis masculin. Il dit « Soyez des hommes », ça veut dire des hommes et des femmes de Dieu. Soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Il dit « Demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Fortifiez-vous, ça veut dire « Devenez de plus en plus fort. » Travaillez pour vous rendre de plus en plus fort dans le Seigneur, à plonger vos racines dans la parole, puis à le vivre pleinement. Plus vous allez le vivre, plus votre écorce va s'épaissir, plus vous allez devenir résistant. Voyez-vous? Ça, c'est le Saint-Esprit qui va nous fortifier, mais on a à faire un effort dans le même sens que l'Esprit veut nous emmener. C'est ça qui est l'idée. Je prie pour ceux, on va faire une prière ensemble. Pour ceux qui sentent faibles dans la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration. C'est quelque chose qui doit se vivre. Puis si on a faibli dans la foi, il y a des raisons. Quand Dieu a parlé dans l'Apocalypse, puis il dit, t'as persévéré dans la foi, mais t'as telle affaire. Il y a un problème. Il y a des problèmes des fois qui minent notre vie chrétienne. Puis ça, il faut les mettre devant le Seigneur. S'il y en a qui ont des péchés et qui veulent les confesser au Seigneur, c'est le temps. S'il y en a qui veulent des guérisons, des délivrances, qui veulent l'assistance du Saint-Esprit pour les fortifier dans leur vie, puis les donner un boost, puis les faire grandir dans le Seigneur, mais Dieu veut le faire là. On va faire une prière ensemble. On va demander au Seigneur de pardonner nos péchés. On va demander au Seigneur de nous remplir de sa puissance et continuer son œuvre pour nous fortifier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Et tous les exemples nous démontrant qu'on a persévéré. Nous voulons persévérer. Nous voulons marcher par la foi. On a besoin de ton assistance. Pardonne-nous tous les moments de faiblesse qu'on a. Pardonne-nous de nos égarements. Pardonne-nous de toute désobéissance. Et remplis-nous de ton Saint-Esprit. Prends le contrôle de nos vies. Renforcis-nous par la foi, qu'on puisse grandir dans le Seigneur, qu'on puisse devenir inébranlable. Je te remercie de ce que tu veux faire au milieu de nous. Tout est dans ton nom merveilleux, Jésus-Christ. Amen.